franceinter.fr.
Aujourd'hui dans l'affaire sensible, la famine en Somalie en 1992. Toute personne en âge de se souvenir a encore quelques images en tête. C'était un matin d'octobre 1992. Ce jour-là, sur le chemin de l'école, du collège ou du lycée, les enfants et adolescents français, en plus de leur cartable, tenaient dans leurs mains un petit sac de riz. Ils répondaient à l'opération du riz pour la Somalie, lancée quelques semaines plus tôt par le ministre de la Santé et de l'Action humanitaire, Bernard Kouchner. Une fois collectées, les tonnes de céréales étaient envoyées en direction d'un pays lointain, la Somalie, rongée par la guerre et la famine. À cette époque, la Somalie est plongée dans une guerre civile et confrontée à un épisode de sécheresse particulièrement difficile. Ce contexte provoque à partir de 1992 une famine de grande ampleur. Les organisations humanitaires présentes sur place depuis plusieurs mois sont rapidement dépassées et le bilan humain s'alourdit au fil des mois. Il faudra l'intervention du ministre de la Santé, Bernard Kouchner, pour que la situation somalienne s'invite au cœur de l'actualité. Dans la foulée, l'ONU vote une résolution pour une intervention militaro-humanitaire sur place. Mais cette grande première tourne au fiasco. Un échec qui ouvre alors toute une série de questions autour du droit d'ingérence, de la place du militaire dans les opérations humanitaires, des limites de la médiatisation de ces crises, des tensions entre le court et le long terme pour des pays encore aujourd'hui sujets à des drames similaires. À ces questions, nous répondrons en seconde partie d'émission avec notre invité Ronnie Broman, ancien président de Médecins Sans Frontières. Il a vécu de près cet événement. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Mézodob avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Priollet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Laigle, à la technique aujourd'hui Vincent Godard.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Ladies and gentlemen of the media, thank you very much for your presence.
Mesdames et messieurs, vous qui travaillez dans les médias, je vous remercie beaucoup d'être ici. Comme vous le savez, j'étais hier en Somalie et j'en suis revenu avec un sentiment double. Un sentiment de tristesse, mais aussi un sentiment d'espoir. Avant tout, la tristesse. J'ai été témoin de l'association terrible, du conflit de la faim et de la maladie, causée par la lutte permanente de la Somalie pour réussir à vaincre Al-Shabaab, pour mettre fin au terrorisme et pour créer les conditions dans lesquelles la paix pourra s'établir. Mais un sentiment d'espoir aussi. Les nouveaux présidents et premiers ministres ainsi que les nouvelles autorités somaliennes présentent un très fort engagement pour reconstruire progressivement le pays, pour que la Somalie devienne, dans le futur, un modèle de success story.
Mars 2017, Nairobi, Kenya. Lorsqu'il prend la parole ce jour-là, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, décide par une déclaration choc d'alerter le monde sur un drame silencieux, une catastrophe invisible qui touche une grande partie de l'Afrique de l'Est. Du Soudan au Sud-Yémen, en passant par le nord-est du Nigeria et la Somalie, on estime à plus de 20 millions le nombre de personnes en état d'urgence alimentaire. Des villages entiers se vident, les camps de réfugiés saturent et les ONG présentes sur place ont les plus grandes difficultés à endiguer le fléau. Cette crise humanitaire qu'Antonio Guterres qualifie de plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale a des causes multiples. D'abord, une sécheresse historique liée au phénomène météorologique El Niño qui frappe la région depuis l'hiver dernier. La faiblesse des précipitations qui a provoqué l'effondrement des récoltes. Les cheptels qui meurent par manque d'eau, obligeant les hommes et les femmes à lutter contre la faim. Si le climat joue un rôle indéniable, son impact est accentué par les situations politiques des différents pays touchés. L'extrême pauvreté, l'absence de système de santé, un modèle agricole peu performant et surtout les conflits politiques locaux accentuent les conséquences de cet épisode climatique. Du fait des affrontements ou des guerres civiles, les services de l'État sont quasiment absents, ce qui empêche la création de couloirs humanitaires et l'acheminement de l'aide. La veille de sa conférence de presse, Antonio Guterres s'est notamment rendu dans le camp de Baïdoa, dans le centre de la Somalie, où se situe l'épicentre de la sécheresse et où il a pu constater qu'une nouvelle famine était sur le point de toucher ce pays, comme en 2011. relayés au loin derrière la guerre en Syrie, l'élection présidentielle française ou le drame des migrants en Méditerranée sur les routes européennes, le secrétaire général de l'ONU veut, par cette conférence, insister sur l'urgence de la situation. Et quelques jours après, c'est par la voix d'un jeune Français, Jérôme Jarre, star des réseaux sociaux, que la situation somalienne s'impose dans l'actualité française.
Ce que j'ai à vous dire, mes amis, est pas très facile. J'étais à l'instant au téléphone avec un bénévole en Somalie qui vient de voir une fille de 6 ans mourir en face de lui, déshydratée, après qu'elle ait marché 150 km avec sa maman à la recherche d'eau. Aujourd'hui, sur la planète Terre. Mais il faut qu'on se rappelle que c'est pas la réalité, ça. La réalité, c'est qu'on peut se mobiliser, on peut chercher des solutions, on peut essayer, surtout avec les réseaux sociaux. On est tous sur les réseaux sociaux. Mais et si on trouvait un avion et qu'on le remplissait de nourriture, qu'on le remplissait d'eau et qu'on l'envoyait là-bas en Somalie?
Relayé par d'autres personnalités comme le youtubeur Norman Tavo ou les acteurs Omar Sy et Ben Stiller, l'appel du jeune Français fait son effet. Quelques jours plus tard, plus de 50 000 personnes envoient des dons et un total d'1 million de dollars est rassemblé. Suite au hashtag lancé par Jérôme Jarre qui invite la Turkish Airlines, seule compagnie européenne qui dessert Mogadiscio, à envoyer de l'aide par avion, celle-ci affrète un cargo avec de l'eau et de la nourriture. Si les moyens de communication ont changé et si le profil des personnalités mobilisées a évolué, cette situation, comme un mauvais fantôme, en rappelle une autre. C'était en 1992 et c'était déjà en Somalie. Comme 25 ans auparavant, il avait fallu l'intervention de l'ONU et de personnalités publiques pour qu'une crise humanitaire franchisse le mur du silence, pour que le bruit, les images et les mots du drame apparaissent pour un temps à la une de l'actualité.
Restons à l'étranger encore un instant si vous le voulez bien, avec notamment la Somalie où la situation ne s'arrange pas. La France a annoncé aujourd'hui sa décision de faire évacuer son ambassade à Mogadiscio. La guerre civile se poursuit dans les rues de la capitale somalienne entre rebelles et forces loyales au président Siad Barré. Au siège du comité international de la Croix-Rouge à Genève, on est inquiet. La délégation en effet du comité à Mogadiscio aurait été attaquée.
La Somalie est une exception. Ce pays aride, un peu plus grand que la France et qui enveloppe la corne de l'Afrique, présente la particularité sur le continent d'avoir une population d'environ 7 millions de personnes qui partagent la même ethnie, la même langue et la même religion, l'islam, de confession sunnite. À majorité nomade, la société somalienne se divise en clans et en sous-clans composés de familles, chacune rattachée à un même ancêtre. Ainsi regroupé en communauté de vie sur un territoire donné, le clan est l'identité structurelle de la société somalienne. Après les colonisations du 19e siècle, italiennes au sud et britanniques au nord, la Somalie acquiert son indépendance en 1960. 9 ans plus tard, l'assassinat du président Ali Chemark fait ressurgir les divisions claniques. Le général Mohamed Siad Barré profite d'un coup d'État pour établir une république démocratique socialiste. Avec l'appui de l'URSS, puis des États-Unis, son socialisme scientifique instaure l'égalité des sexes, la gratuité des soins et de l'éducation. Surtout, il tente de maintenir la cohésion des clans autour de l'idée, justement, de Grande Somalie. Mais le régime dictatorial, le culte de la personnalité de Barré et la corruption effritent bientôt cette ambition. Ce pays aux faibles ressources naturelles, semi-désertique, essentiellement basé sur l'élevage, dépend beaucoup de l'assistance internationale. Une aide dont Siad Barré se sert pour financer ses mesures et se maintenir au pouvoir. À la fin des années 80, notamment sous l'impulsion du Somali National Movement, dans le nord du pays, la guerre civile éclate. Les rivalités claniques et régionales s'exacerbent et le conflit gagne Mogadiscio au début de l'année 91.
La Somalie à feu et à sang, les combats ont déjà fait de 1500 à 2000 morts dans la capitale Mogadiscio. Les rebelles ont reçu des renforts ces derniers jours et ils semblent avoir pris le dessus sur les troupes loyales au président Siad Barré. C'est dans ce climat que l'évacuation des ressortissants étrangers a commencé ce matin.
Le 26 janvier 1991, Siad Barré, le président, est destitué et contraint de fuir Mogadiscio. Il se réfugie dans le sud-ouest du pays, d'où il tente de reprendre le pouvoir. Du côté de l'opposition, les tensions surgissent rapidement. Ali Mahdi Mohamed s'autoproclame président sans parvenir à s'imposer politiquement, ni militairement. Il doit notamment faire face au général Farhad Aidid, qui lui aussi revendique le pouvoir. Ces affrontements, multiples et continus entre les deux camps de l'opposition, provoquent la scission de la capitale Mogadiscio et du pays tout entier. La guerre civile, conjuguée à une sécheresse catastrophique, plonge le pays dans une crise humanitaire dramatique. La situation alimentaire est critique. Les combats empêchent toute activité agricole dans les seules régions productives du Sud. La sécheresse condamne les cheptels du Nord. Bientôt, les hommes, les femmes et les enfants confrontés à la faim migrent et se réfugient dans les camps ou dans la capitale. Face à la guerre civile, de nombreux États rapatrient leurs ressortissants pendant que les ONG envoient des équipes sur place, dont Médecins Sans Frontières, comme l'explique son président, Ronnie Broman.
L'objectif est de remettre en route l'hôpital de Mogadiscio parce que nous savons qu'il y a actuellement des centaines et peut-être même des milliers de blessés en raison des combats qui font rage depuis plusieurs jours. Ce qui sera bien entendu extrêmement difficile, ce sera le débarquement à l'aéroport de Mogadiscio qui est le siège de combats extrêmement violents et c'est la raison pour laquelle nous demandons aux parties en présence d'accepter une trêve humanitaire de quelques heures, le temps de laisser sortir les équipes chirurgicales de l'aéroport et de les laisser rejoindre l'hôpital central de Mogadiscio.
Dès le mois de janvier 1991, les premières ONG arrivent en Somalie et constatent le chaos. Parmi elles, le Comité international de la Croix-Rouge, l'association américaine Save the Children et Action contre la faim. L'Organisation des Nations Unies, de son côté, intervient également et tente de régler la situation politique par la négociation, notamment par l'intermédiaire de l'ambassadeur Mohamed Sharnoun, représentant spécial du secrétaire général en Somalie. Du côté humanitaire, tout au long de l'année 91, la difficulté s'accroît. Car l'aide alimentaire et matérielle est souvent détournée par les groupes armés et le commerce illégal qui se développe fait augmenter le prix des denrées. Les agences d'aide présentes sur place sont témoins de l'accroissement des violences et assistent surtout à l'imminence d'une famine. Par endroit, on dénombre près de 30 000 décès par mois. Un Somalien sur six pourrait mourir de faim dans les prochains mois. Or, tout au long de cette année 91, la Somalie s'est éloignée des radars médiatiques. Côté politique, au mois de mai 92, Siad Barre, le président déchu, fuit vers Nairobi au Kenya pendant qu'une trêve est signée entre les deux opposants, Ali Mardi et Farhadha Hidid. Et au printemps 1992, la situation somalienne revient dans les médias.
Pendant quatre mois, on s'est battu en Somalie, clan contre clan, famille contre famille, intérêt contre intérêt. Depuis un mois et demi, les combats sont arrêtés, mais les factions restent face à face. Le général Hidid tient le sud de Mogadiscio et Ali Mardi tient le nord. Et des deux côtés, on reste armé jusqu'aux dents. On contrôle chaque coin de rue, chaque point de passage, Kalachnikov à la main. Pour se déplacer, les fonctionnaires des Nations Unies, les employés de la Croix-Rouge internationale, des organisations humanitaires, doivent être encadrés par des voitures hérissées de lance-roquettes, voire de lance-missiles. C'est dans ce contexte au bord de la folie, au cœur de l'anarchie, pris en étau, que des milliers et des milliers de Somaliens cherchent désespérément quelque chose à manger.
Après les Kurdes d'Irak en 1991, c'est désormais la Somalie qui envahit les écrans de télé occidentales. Et le constat est terrible. Un an et demi après le renversement du président Barre, la Somalie est dépourvue de toute administration centrale ou locale. La Croix-Rouge a beau avoir lancé la plus grande opération de son histoire, l'acheminement de l'aide humanitaire est gêné par le chaos. L'ONU décide l'envoi d'une centaine de casques bleus pour soutenir les opérations militaires et humanitaires. Négocié par Mohamed Sarnoun, accepté après d'âpres discussions par les différents clans en guerre, et notamment les deux leaders, Ali Mahdi Mohamed et Farah Hidid, il reste aux Nations Unies à acter cette opération, baptisée ONUSOM. Pour mobiliser la communauté internationale, le secrétaire général des Nations Unies, l'Égyptien Boutros Boutros-Ghali, nommé quelques mois auparavant, fait une déclaration choc, lui aussi. Il explique son indignation de voir l'opinion internationale s'intéresser à ce qu'il nomme, je cite, « la guerre des riches en Yougoslavie plutôt qu'à celle des pauvres en Somalie ». Le secrétaire général est persuadé que l'effondrement de l'URSS ouvre la voie à une gouvernance mondiale et que l'ONU, donc, lui, a un rôle essentiel à jouer. Un autre facteur s'invite dans les négociations, il est américain. À l'été 1992, ce pays est en pleine campagne présidentielle. Bill Clinton interpelle le candidat républicain et président sortant George Bush, père, sur la question somalienne. Ce dernier a besoin d'améliorer une image abîmée par la guerre du Golfe. Or, la famine en Somalie a profondément marqué l'opinion américaine. L'administration Bush enclenche alors la livraison de matériel et de nourriture vers Mogadiscio en même temps qu'elle valide son soutien à l'ONU pour l'envoi de casques bleus. En France, c'est par l'intermédiaire de Bernard Kouchner, ministre de la Santé et de l'Action humanitaire, qui se rend sur place au début du mois d'août 1992, que la crise somalienne arrive sur les écrans français.
Vous n'avez pas vu une situation d'une telle ampleur depuis combien de temps ? Biafra, depuis l'Éthiopie. Enfin voilà, c'est toute la détresse humaine. Regardez cet enfant. Il a peur de nous voir, il a peur du monde et il attend la mort. Il y a 79 enfants qui ont été enterrés depuis deux jours. Je voulais que je vous dise, moi, les gens sont en vacances en France et puis il y a les Jeux Olympiques. Voilà ce que je vous dis. Et c'est un drôle de monde. Et je vous assure que, bon, on a vu d'autres. Voilà, c'est à vous de faire votre boulot et à nous de faire le nôtre et puis à être des hommes. Les hommes, ça veut dire qu'on a le monde en charge. Et pas seulement les Nations Unies, et pas seulement les organisations non gouvernementales. Il y a aussi ceux qui font rien, ceux qui sont riches, ceux qui crèvent de richesses partout. Et puis il y a ces gens-là. Alors voilà, s'ils veulent se regarder en face ou avoir un monde un peu meilleur pour leurs enfants, eh bien ils ont qu'à venir ici. Il y a du boulot.
Pour tous les acteurs de la crise, l'urgence immédiate est alimentaire. Alors, l'idée est simple. Il faut apporter massivement des denrées de première nécessité comme l'huile ou le riz pour faire chuter les prix et rendre les attaques de convois non rentables. C'est avec cet impératif en tête que Bernard Kouchner, ancien membre fondateur de Médecins Sans Frontières, décide d'alerter la communauté européenne et surtout de mobiliser l'ensemble des foyers français. Dans les écoles, chaque année, la date du 20 octobre est consacrée au tiers-monde. Eh bien, c'est le jour choisi par le ministre pour lancer une vaste opération de solidarité.
Chaque enfant, enfant adolescent, dans les écoles, dans les lycées, apportera, s'il le souhaite, un peu de riz, un paquet de riz. Dans sa classe, instituteurs et professeurs les rassembleront. Ce riz sera collecté par les voitures jaunes de la Poste dans chaque établissement. Puis la SNCF prendra en charge, dans les centres de tri de la Poste, ces tonnes de riz pour les apporter à Marseille, où on nous a prêté un entrepôt, et à partir de là, un bateau de la France, un bateau des enfants de France pour les enfants de Somalie, partira très vite pour arriver à Mogadiscio, où nous contrôlerons son arrivée et la distribution, avec en particulier Patrick Bruel, qui appellera à ce geste les enfants de France dans la semaine. Chaque enfant de France se sentira responsable d'un enfant de Somalie. Et il faut qu'il y ait la paix en Somalie, sinon ça sert à rien. Mais ça sert toujours de sauver un enfant. Et là, les 13 millions d'enfants et d'adolescents de France sauveront, j'en suis sûr, des millions d'enfants.
En quelques mois, par l'intermédiaire des ONG, de l'ONU et d'un ministre français, la crise humanitaire somalienne réussit à sortir de l'anonymat médiatique. La communauté internationale a décidé de passer à l'action. Bien. Pour autant, de nombreuses questions restent en suspens. L'opération française du riz pour la Somalie va-t-elle réellement avoir un impact sur place? L'arrivée des 500 casques bleus d'Unisom à Mogadiscio sera-t-elle bien perçue? Suffira-t-elle? Enfin, et surtout, comment régler une situation politique locale particulièrement tendue? Autant de questions qu'à l'heure de l'urgence, on tente de repousser.
Hollow of our minds.
environ 15% se perd, et puis il y a 15% qui vont quand même dans le marché nourrir des gens, même si c'est au marché noir ou chez les salauds. Et puis il y en a 85% qui arrivent. Et puis même s'il en arrive avec 50%, si un seul bébé était sauvé par cette opération, je serais heureux. Je n'ai aucune garantie, je n'ai fait aucune promesse. C'est une opération généreuse. Et si on faisait une opération européenne comme ça? Et si on poussait les casques bleus et les politiques à New York à amener beaucoup plus de protection pour les corridors humanitaires, parce que les enfants de France l'ont exigé grâce à l'éducation nationale et aux autres? Il y a des gens qui disent « ce qui compte, c'est le développement ». D'accord, mais ce qui compte, c'est d'arrêter la guerre. C'est aussi bête que de se demander si on apprend à nager à un homme qui se noie. Bien sûr qu'apprendre à nager, c'est mieux, le développement, c'est mieux, les robes de bure, c'est mieux, développer. Ils ont la recette du développement, l'Afrique s'effondre. Comment peut-on se poser la question de laisser mourir ces enfants qui pèsent 4 kilos et dont les membres cassent dans les doigts? Enfin.
Quelques jours seulement après le lancement de l'opération du RIB pour la Somalie, des voix s'élèvent pour émettre les premiers doutes. D'abord, l'efficacité de l'action. On sait que sur place, le détournement de l'aide humanitaire provoque l'augmentation du commerce illégal, la hausse des prix et surtout un accroissement des affrontements. Certains dénoncent même ce qui serait un cercle vicieux. L'envoi massif de nourriture ne ferait qu'alimenter la guerre. D'ailleurs, la crise politique et humanitaire, malgré l'envoi des casques bleus et du riz, continue. Mohamed Sarnoun, le représentant spécial des Nations Unies en charge justement des négociations entre les clans rivaux, démissionne de ses fonctions. Au sein de l'ONU, les affrontements sur la marche à suivre provoquent des tensions diplomatiques. Malgré l'opposition de nombreux acteurs face à ce qui apparaît comme une décision forcée, rien n'y fait. Le processus de discussion entre opposants s'en trouve bloqué et la situation se dégrade. Le démantèlement complet de l'État, notamment des services d'ordre, favorise la circulation des armes et la constitution des bandes dans la capitale et à travers le pays. Alors, de nouveau, à l'ONU, les discussions s'ouvrent. Le président Bush propose l'engagement d'un important contingent militaire et d'une opération sous commandement américain. Finalement, le 3 décembre 1992, les Nations Unies, emmenées par leur secrétaire général Boutros Boutros-Ghali, votent une résolution historique.
La résolution 794 fera date dans l'histoire des Nations Unies. Elle vient d'être adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité. Les États-Unis sont autorisés à prendre la tête d'une opération militaire d'urgence pour sauver les victimes de la famine en Somalie. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Boutros Ghali, est conscient de l'importance de la décision qui vient d'être prise au micro de Philippe Reltien à New York.
Je pense que ce qui compte, c'est la valeur morale de cette résolution. Pour la première fois, les Nations Unies interviennent pour des raisons purement humanitaires.
La résolution 794 de l'ONU et l'opération baptisée Restore Hope est effectivement historique, car elle applique le droit d'ingérence humanitaire, concept apparu pendant la guerre du Biafra à la fin des années 60, qui avait entraîné la création de nombreuses ONG. Cette fois, le droit d'ingérence est mis en pratique directement par l'une des plus hautes instances internationales. Restore Hope, restaurer l'espoir. Une manière de signifier qu'elle se drape des plus belles intentions. Car il n'y a là aucun intérêt économique ou stratégique, caché ou officiel. Non, rien qui ne motive l'implication des États-Unis ou d'autres acteurs. On est bien dans une opération strictement militaro-humanitaire, une première du genre. Dans la foulée, Bernard Kouchner, défenseur du droit d'ingérence depuis de nombreuses années, savoure cette victoire. Il se rend à Mogadiscio, prolonger son opération du riz pour la Somalie et montrer qu'il est bien acheminé sur place. Sous l'œil des caméras, on le voit porter un sac de riz sur une plage à proximité de Mogadiscio. Il enchaîne ensuite par une visite dans un centre humanitaire avant de rencontrer les deux leaders du conflit, le général Mohamed Farah Aïdid et le président intérimaire Ali Mardi. Pour autant, cette décision ne convainc pas tout le monde. En particulier Ronnie Broman, le président de Médecins Sans Frontières, ONG engagée en Somalie depuis le début de la crise.
Sur le fond, je pense que d'abord, on a laissé une situation se détériorer et qu'aujourd'hui, on en est au recours chirurgical parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout du traitement médical, si vous me permettez cette comparaison. On avait commencé un processus de médiation, on avait commencé à rassembler les différentes factions, à travailler avec les organisations humanitaires d'un côté, les organisations, disons, représentatives ou plus ou moins représentatives des Somaliens de l'autre. Et puis, pour des raisons sur lesquelles je n'ai pas à me prononcer, la personne, le délégué des Nations Unies qui s'occupait de ça a été démissionné, purement et simplement, et remplacé par un autre. Et finalement, le processus politique a patiné, a été relativement bloqué. Et ensuite, la violence a explosé, la situation s'est effectivement dégradée, et que effectivement cette intervention qui vise à restaurer un minimum de sécurité et de stabilité dans le pays est aujourd'hui largement compréhensible.
décision historique, image, symbolique. Un mois après le vote, le 5 janvier 1993, les soldats américains débarquent sur la place de Mogadiscio. Une fois encore, les télés sont présentes. Prise de nuit, les images montrent des bateaux accostés sur la plage et déchargés de soldats américains comme s'ils étaient en opération militaire. Une impression de scène de guerre qui marque profondément les esprits. L'intervention militaire permet d'abord effectivement d'améliorer l'acheminement de l'aide alimentaire. Les itinéraires sont rouverts, les centres de santé et d'approvisionnement fonctionnent de nouveau. On annonce des pluies abondantes, donc la fin de l'épisode de sécheresse. En coulisses, les diplomates américains s'activent pour aboutir à un accord entre les différents clans, notamment au sommet d'Addis Abeba en Éthiopie qui se tient en janvier 1993. L'objectif de la réunion est l'obtention d'un cessez-le-feu et un accord de principe sur une future réunification nationale. À voir les discussions s'enliser sur ces engagements de principe, on comprend toute la difficulté de la situation. Ce premier sommet d'Addis Abeba est en réalité un jeu de dupes, chaque faction cherchant à étendre son territoire avant le cessez-le-feu définitif. De ce point de vue, la présence importante de militaires à Mogadiscio, la capitale et dans une grande partie du pays, est très mal perçue par la population locale et accroît par endroits les tensions avec les groupes armés. Entre-temps, Bill Clinton, nouveau président américain, entre en fonction à la fin du mois de janvier et annonce le retrait d'une partie des troupes dans les semaines à venir. C'est ainsi que Rest of Hope transfère petit à petit sa mission à l'Unisom 2 des Nations Unies. Cette précipitation renforce les velléités des différentes factions. Tout au long de ce premier trimestre 1993, les affrontements se multiplient entre soldats et groupes armés. Le 15 juin, une vingtaine de casques bleus pakistanais meurent lors d'affrontements avec des soldats somaliens. La riposte des Nations Unies ne se fait pas attendre.
Ce matin, à l'aube, les forces de l'ONU et des États-Unis ont finalement lancé un raid contre le quartier général du chef de clan Aidid. Aidid, qui est considéré comme le responsable de la mort des 23 casques bleus pakistanais samedi dernier. L'opération, dont on soupçonnait l'imminence, a débuté à 3h du matin par une attaque aérienne.
À partir de cette date, l'enlisement de la situation paraît inextricable. Au lieu d'avoir fait baisser la tension, l'intervention militaire augmente les hostilités entre les clans, la population locale et les forces onusiennes. On dénonce rapidement la logique militaro-humanitaire de l'opération. Les États-Unis, hantés par le cauchemar vietnamien et par l'image négative renvoyée lors de la guerre du Golfe, ne s'investissent pas autant que les images de CNN voudraient le démontrer au moment du débarquement. Au milieu des affrontements, les organisations humanitaires se retrouvent elles-mêmes en danger. C'est ainsi qu'en octobre 1993, Ronnie Broman, le président de MSF, annonce le retrait de son organisation.
Ronnie Broman, bonjour. MSF a quitté la Somalie il y a quelques jours déjà en critiquant ouvertement l'ONU. Vous pensez qu'il y a vraiment une dérive, comme on dit, du mandat de l'ONU en ce moment ?
Ah oui, je ne le pense pas seulement, je le constate tous les jours. Il y avait au départ un engagement militaro-humanitaire. Il est devenu de moins en moins humanitaro, si je peux dire, et de plus en plus militaire. C'est aujourd'hui inacceptable. Des troupes qui sont engagées au nom des principes humanitaires, au nom de la morale, tirent sur des manifestants civils, tirent sur des hôpitaux, arrivent même à agresser involontairement, bien entendu, des équipes humanitaires, des journalistes. C'est vraiment inacceptable et je crois qu'il fallait taper du poing sur la table, au moins pour éviter que ça ne se reproduise plus.
En deux mots, vous partez pour ne pas être associé, dites-vous, à une opération militaire.
Ben, nous partons pour deux raisons. Parce que, d'une part, l'urgence vitale est maintenant dépassée. Heureusement, la famine est derrière nous, pour des tas de raisons, y compris celle d'ailleurs due à l'intervention militaire, mais également parce que la famine avait déjà été résorbée avant cette intervention. Parce que les risques que courent nos équipes du fait de l'amalgame avec les soldats sont de plus en plus grands. Avant, nous risquions des balles perdues, des éclats perdus. Maintenant, nous risquons directement l'hostilité d'un certain nombre de groupes armés qui nous confondent avec les militaires.
La décision de Médecins sans frontières est lourde de sens. Elle se veut sécuritaire, effectivement, mais également symbolique. En effet, par ce geste, MSF et son président veulent dire leur opposition à l'échec de la stratégie des Nations Unies. L'aide internationale en Somalie reste tout de même importante jusqu'à la fin de l'année 93. Elle permet de maintenir une situation stable sur le plan humanitaire. Sur le plan politique, en revanche, la situation continue de s'enliser. Finalement, en mars 1995, la fin de l'opération Unisom 2 est officielle. L'ensemble des forces armées étrangères quittent le pays. Mais le constat est sévère. Erreur d'objectif et d'organisation, réaction trop tardive. L'option militaire a provoqué une impasse de l'humanitaire au lieu de le soutenir. Pour de nombreux observateurs, défenseurs du droit d'ingérence, l'échec est avant tout l'échec des Américains, pas des Nations Unies. La Somalie, elle, malgré des avancées sur le plan politique et économique depuis 20 ans, reste aujourd'hui confrontée à ses difficultés, une fois encore éloignée des radars médiatiques. D'où cette question. Encore une fois, se réveillera-t-on trop tard ?
Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la famine en Somalie avec notre invité Ronnie Broman. Bonjour.
Bonjour.
Ancien président de Médecins Sans Frontières, vous en avez été aussi vraiment l'incarnation. Enfin, ça, c'est l'attachement d'une vie, non ? Vous y êtes toujours ?
Oui, je suis toujours membre de Médecins Sans Frontières, bien sûr. Voilà. Ça va faire 40 ans l'an prochain.
Bon, et vous faites quoi maintenant ? Vous n'êtes plus président ?
Non, je suis plus président depuis 1994. Donc,
oui,
ça fait déjà bien longtemps. Non, mais je suis toujours membre actif. Je vais sur le terrain pour participer un peu à la réflexion opérationnelle, aux grandes orientations. J'aide MSF dans la mesure de mon expérience et des analyses, donc en tant que conseiller, puis je participe à la formation des plus jeunes, comme il se doit pour quelqu'un de mon âge.
Voilà, pour passer le flambeau. Hein.
Voilà, exactement.
Bon. Rappelons, puisque nous en parlons, l'histoire de MSF qui avait été créé en quelle année, sur quel constat ?
MSF a été créé en fin 1971, disons début 72, donc ça fait maintenant 45 ans. À la suite de la guerre du Biafra, lorsque Bernard Kouchner, Max Récamier et quelques autres ont eu l'idée de créer un groupe purement médical, c'est-à-dire capable d'agir selon une logique qui soit celle des médecins et pas selon celle de la Croix-Rouge, non pas parce qu'elle était vieille, fatiguée, etc., comme parfois c'est dit, mais simplement parce qu'elle est très généraliste. Mmh. Et que l'aide médicale et les dispositifs médicaux demandent un soutien très particulier, les médicaments, le matériel médical, enfin tout ça est très spécialisé et demandait donc une démarche spécialisée. C'est comme ça que Médecins Sans Frontières a été créé, essentiellement pour les conflits et les catastrophes naturelles, mais depuis son mandat, si j'ose dire, enfin son champ d'action s'est considérablement élargi.
Bien sûr. Alors en 91, que se passe-t-il à ce moment-là? Plus précisément, quels sont les signes, les faits qui vous mettent la puce à l'oreille et qui font que MSF intervient en Somalie?
Ben, d'abord, la Somalie était un terrain familier. Moi, j'y étais déjà allé à de nombreuses reprises au cours des années 80, parce que nous avions un énorme dispositif d'aide aux réfugiés. Donc, aussi bien pour les Nations Unies que pour un certain nombre d'ONG, la Somalie était une terre, disons, que nous fréquentions assidûment. Donc, ça n'était pas un coin perdu au bout du monde, elle était dans le radar. Et puis, nous savions que, après 87, nous étions retirés des camps de réfugiés, mais nous savions que dans le Nord, la guerre... non seulement était présente, mais se développait considérablement, si bien que, disons, en 89-90, on appelait le président de la Somalie, Siad Barré, dont vous avez parlé dans votre introduction, le maire de Mogadiscio, parce qu'il ne contrôlait plus que la capitale de la ville, et encore, pas pour longtemps et pas complètement. Donc nous savions que les choses évoluaient de façon très rapide, et lorsque les premiers coups de feu ont éclaté à Mogadiscio...
Rapprochez-vous du micro.
Lorsque les premiers coups de feu ont éclaté à Mogadiscio, nous y sommes allés. D'ailleurs, il y a un son dans la présentation que vous avez faite, dans lequel j'appelle, en tant que président de MSF, les partis à faire une trêve pour permettre l'atterrissage de l'avion et l'acheminement des équipes et du matériel vers l'hôpital, ce qui a été fait. Ça n'est pas dans la présentation, mais nous avons obtenu plusieurs trêves humanitaires grâce à RFI et à l'équivalent italien de RFI et à la BBC qui passaient nos messages en Somalie, en anglais et en italien. De façon à pouvoir permettre l'acheminement. Donc on avait un cadre qui était quand même assez favorable à l'intervention. Donc nous sommes intervenus dès 91 dans un climat qui était assez particulier puisque c'était l'escalade au Proche-Orient. Au début 91, tout le monde a les yeux fixés sur le Koweït et l'Irak.
Bien sûr, puisque la première guerre du Golfe.
L'Irak a envahi le Koweït, le déploiement américain est en train de monter en puissance, et dès mars 91, ça allait être le début de... dès janvier 91, pardon, ça allait être le début de la guerre. Donc il y a une sorte de concurrence des conflits, une concurrence médiatique, si bien que la Somalie, si pour les organisations humanitaires, elle était bien présente, pour les médias, elle était vraiment très loin, on le comprend.
N'oublions pas, la guerre en ex-Yougoslavie, qui monopolisait l'attention des puissances occidentales et européennes, d'autant plus qu'elle se passait à nos portes.
Oui, en effet, mais c'était un peu plus tard. Début 91, ce que l'on voit sur l'écran radar...
C'est vrai, c'est la première guerre,
guerre en
et
Somalie.
C'est 92,
en effet, arrive Vukovar, la sécession de la Croatie, etc. Et donc l'enchaînement qui monte vers la guerre en ex-Yougoslavie, d'où, en effet, la polarisation médiatique sur ce pays.
Alors, je ne sais pas ce que vous pensez au passage de la déclaration saisissante de Boutros-Ghali quand il compare la guerre des riches, donc celle qui concerne l'ex-Yougoslavie, à la guerre des pauvres. Alors, ça avait été plus ou moins bien reçu quand même cette comparaison.
Oui, c'est un peu... C'est un peu insultant pour les Bosniaques tous en train de se goberger dans le luxe pendant qu'il y a quelques balles qui sifflent à leur fenêtre quand même. Mais je vois tout de même ce que Boutros Ghali voulait dire, c'est-à-dire c'est une guerre finalement qui est riche de l'attention qui est portée sur elle, tandis que le déni, enfin en tout cas le dédain ou l'éloignement de la guerre en Somalie fait que on s'y intéresse pas, qu'il y a peu d'aide qui arrive. Donc c'est ce contraste qu'il a voulu faire. La formule n'est pas très heureuse, mais l'idée, je pense, est tout à fait défendable.
Juste. Alors, il y a la médiatisation de l'affaire aussi, par l'intervention de Bernard Kouchner et cette opération du riz en Somalie. Bon, quand même, ce rôle est essentiel. Il a permis de mettre en avant la crise et d'activer la solidarité internationale, on peut le dire.
Ah oui, oui, Kouchner. Et d'ailleurs, une sénatrice américaine qui a joué à peu près le même rôle, qui est passée en Somalie via le Kenya. Elle a franchi, curieusement, elle a franchi la frontière de manière, disons, illicite. Mais enfin, comme il n'y avait plus de véritablement d'État et de contrôle des frontières, elle pouvait se permettre cela. Et avec CNN et New York Times, elle a fait en gros ce que Kouchner a fait, avec un style sans doute un peu plus sobre et plus factuel que le style embrasé de Kouchner. Mais ça, c'est une affaire personnelle. Et donc, aussi bien du côté français que du côté états-unien, il y a eu en effet une mobilisation due à des personnalités politiques qui se sont impliquées sur le terrain. Moi, j'avais tenté vainement, j'avais pas l'aura médiatique de ces personnalités, ni Madame Tenenbaum aux États-Unis, ni Kouchner en France. J'avais tenté vainement de mobiliser la presse. Je me rappelle une entrevue, par exemple, avec Michèle Cotta, qui était directrice de l'information de TF1 à l'époque, qui m'expliquait que mes intentions étaient certes fort louables, mais que la Somalie, tout le monde s'en fichait, et que on n'allait pas traiter l'Afrique avec une guerre de plus, dont finalement personne ne comprenait les tenants et les aboutissants, que tout ça nous embêtait. Et donc, j'ai compris à ce moment-là que du côté de la télé, ce qui importait en matière d'information, c'était la puissance de marketing et pas l'importance de l'événement. Je suis sorti assez dépité, mais enfin, j'étais revenu de quelques illusions. C'était déjà, donc, à partir du moment où, en effet, la puissance marketing de la Somalie est revenue à l'ordre du jour, là, on a vu TF1 se précipiter à nouveau pour être les premiers à pouvoir rendre compte de la situation. C'est assez pitoyable, c'est pas très glorieux, mais enfin, c'est comme, c'était comme ça aussi que ça se passe, et c'est une leçon qui m'est restée durablement à l'esprit.
Bien, alors, il n'aura échappé à personne que le récit que nous avons proposé pose évidemment, comme d'autres auraient pu poser, mais celui-là en tout cas, la question du droit d'ingérence humanitaire. Et on va en parler. On va écouter d'abord Mario Betati, juriste et conseiller du ministre Bernard Kouchner, qui parle justement de cette notion, de ce concept de droit d'ingérence humanitaire.
Doit-on parler de droit d'ingérence ou doit-on parler de devoir d'ingérence ?
Ce sont deux choses tout à fait différentes. Le devoir d'ingérence, c'est ce qui motive moralement les secouristes, les ONG, les organisations comme le HCR, l'UNICEF, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, etc., à intervenir. C'est une pulsion intérieure. Le droit d'ingérence, c'est tout simplement le principe de libre accès aux victimes, c'est-à-dire le principe qui permet aux secouristes d'intervenir sans se soucier de la souveraineté de l'État, en ayant au besoin son autorisation, mais pas d'obstacle. La question qui se pose, c'est s'il y a des obstacles, est-ce qu'on a le droit d'utiliser la force ? Et c'est là que toute la difficulté surgit. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les casques bleus, comme on l'a fait en Somalie, comme on le fait en Bosnie ? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser une force nationale habilitée, comme on l'a fait avec l'opération Restore Hope, comme on l'a fait avec l'opération Provide Comfort au Kurdistan, ou avec Turquoise au Rwanda ? On a toujours tendance à voir ce qui ne marche pas et parler des trains qui déraillent. Mais il y a aussi des trains qui arrivent à l'heure.
Ronnie Broman, que pensez-vous de cette démonstration de Mario Betati ?
J'y vois plutôt une confusion générale entre toutes sortes de choses différentes qu'une démonstration convaincante. Mais il faudrait sans doute un peu plus de temps pour entrer dans le détail. Je dirais que la première chose qui est préoccupante dans cette notion d'ingérence, je rappelle que l'ingérence est un délit et que le droit d'ingérence est fondé sur un oxymore. C'est un droit à l'effraction. Ouais. Donc, qui a un droit à l'effraction, finalement, les pompiers lorsqu'ils vont faire un sauvetage, ou les juges lorsqu'ils décident d'une perquisition, mais c'est bien sous l'égide d'une souveraineté nationale, c'est bien sous l'égide d'une autorité légale. Or, lorsqu'on intervient à l'autre bout du monde, cette autorité, elle n'existe pas. Alors, il se trouve qu'en Somalie, il n'y avait plus de gouvernement. Donc, il n'y avait plus d'obstacle de souveraineté parce qu'il n'y avait plus de souveraineté organisée. Mmh. Alors, en effet, c'était une sorte de pays ouvert à tous les vents et on pouvait y envoyer des troupes sans risquer, a priori, d'obstacles politiques. Mais rapidement, la réalité et ses frictions sont venues se rappeler à nous sur le terrain. Et c'est là que vient mon deuxième point, la question de la violence, des usages de la violence, des vertus que l'on peut attendre de l'usage de celle-ci, qui est en cause. Imposer par la force la distribution d'aide alimentaire, ça va bien quelques jours, voire quelques semaines. Mais on n'impose pas par la force un bien qui est censé profiter à l'ensemble de la population. Si on l'impose par la force, c'est qu'il y a un problème, quelque part. Et ce qui est fou, c'est que en Somalie, je peux en témoigner, les gens étaient vraiment favorables à cette intervention internationale. Je le
reconnais. Les gens, quand vous dites les gens, c'est
les gens, les Somaliens de
la base,
les gens avec qui la population. Mmh. On pouvait en discuter vraiment très librement. Ils en avaient assez de ces chefs de guerre cyniques, uniquement préoccupés de leur propre pouvoir et de leurs propres intérêts. Ali Mahdi, Farah Aidid. Et donc, l'intervention internationale leur paraissait être un sauvetage et peut-être la mise à l'écart de ces chefs de guerre honnis par une partie croissante de la population. Mais l'usage de la force, la volonté d'imposer très rapidement des résultats, l'idée qu'on pouvait imposer, disons, son rythme, pas seulement sa puissance, mais également son rythme. Par exemple, les Américains ont voulu, et ils ont volé la vedette aux Français qui voulaient le faire d'ailleurs très peu de temps après, amener les deux chefs de guerre, Ali Mahdi et Aidid, à se réconcilier sur fond de drapeaux américains et de sacs de riz donnés par le peuple américain. Donc on voit, il y a une photo qui a été très largement publiée à l'époque, où l'on voit ces deux chefs de guerre se serrer la main, devant
une sorte de camp David somalien,
un genre de camp David obtenu à l'arrache, c'est-à-dire c'est pas camp David avec des années de négociations clandestines. Là, c'est une sorte de, enfin, on les prend par le col et on les amène sur les sacs de riz dans une bonne façon impériale ou néocoloniale. Vous voyez, c'est pas ces petits Somaliens qui vont nous arrêter. On va leur botter le train et on va leur montrer de quel bois on se chauffe. Mmh. Donc cette espèce de d'esprit néocolonial et aussi cette volonté d'assouvir l'ogre médiatique, si vous voulez, il fallait des images, il fallait que chaque jour, d'ailleurs ça a été rappelé également dans votre introduction, dans votre exposé, qui est dans l'ensemble je trouve très juste, le débarquement des Américains, il se passe de nuit. Ouais. À Mogadiscio. Pourquoi est-ce qu'il se passe de nuit ? Bien pour qu'il soit diffusé à 18h, c'est-à-dire l'heure de prime time des bulletins télévisés aux États-Unis. Donc on commence par cette formidable mise en scène. Et il fallait donner tous les jours à l'ogre médiatique, si j'ose dire, donc cette pitance de signes réconfortants, montrant la progression inaltérable, durable des forces américaines. Et au bout de quelques jours, donc, cette poignée de main, sur fond de sac de riz. Poignée de main entièrement bidon, qui se fait avec quelques grandes affirmations du style, eh bien, la ligne verte, celle qui sépare Mogadiscio en deux, va être ouverte, on va pouvoir passer, on demande l'acheminement de l'aide humanitaire, on demande à déposer des armes, à saigner, à s'engager pour un avenir meilleur en Somalie, ce qui avait déjà été signé 4 ou 5 fois dans les mois précédents. Donc il n'y avait absolument rien de nouveau. C'était une pure tromperie, mais cette fois-ci sous le drapeau américain.
Et que pensez-vous de l'opération, pour le coup, militaro-humanitaire décidée par l'ONU ? Est-ce que c'est encore un oxymore, militaro-humanitaire ? Pas forcément.
En effet, il peut y avoir une opération de sauvetage militaire. Par exemple, prenons une opération militaro-humanitaire pacifique, celle de Mare Nostrum, donc menée par les gardes-côtes italiens en Méditerranée. Et c'était bien grâce à leur puissance, à leur capacité militaire, que ces gardes-côtes ont repêché des milliers de migrants, ont sauvé des milliers de vies humaines. Donc je ne conteste pas a priori, et dans des catastrophes naturelles ou même dans des catastrophes de ce type-là. On peut voir des militaires agir avec efficacité, précision.
Et avec du matériel.
Et avec du matériel. Bien donc sûr. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais là, en l'occurrence, ça n'est pas le militaire humanitaire, c'est la guerre humanitaire qui l'emporte. C'est-à-dire, il s'agit de considérer l'ensemble des hommes armés de Somalie comme des ennemis, de les désarmer, de les neutraliser, d'ouvrir des corridors. Vous savez que pour un militaire, un corridor, ça n'est pas une simple bâtisse, enfin, ça n'est pas un simple couloir, comme pour vous et moi. Un corridor, c'est un passage surarmé, surprotégé, avec déploiement de forces, hélicoptères, troupes qui avancent sur les côtés, véhicules blindés, etc. C'est tout un ensemble. Et on peut mesurer le ridicule en se référant à un article remarquable du journaliste Stephen Smith, qui était paru dans Libération au moment, justement, du premier convoi militaire américain. Donc, il y avait à peu près 20 tonnes de nourriture qui était encadré par 400 militaires surarmés, enfin des porte-avions, si vous voulez, ils étaient vraiment impressionnants, et autant de journalistes qui couvraient la chose. Donc il y avait en gros des centaines de personnes qui étaient là simplement pour regarder ou protéger, et puis quelques militaires qui étaient là pour distribuer. 20 tonnes acheminées au prix du caviar. Au même moment, 30 kilomètres plus loin, dans le petit port de Merka, au sud de Mogadiscio, la Croix-Rouge internationale débarquait 400 tonnes de grains, d'un petit bateau tout pourri, tout rayé, sur un petit ponton branlant, qui était donc ces 400 tonnes étaient transbordées par des gens qui étaient payés pour ça, localement, sur des vieux camions un peu branlants de négociants et de marchands, de commerçants somaliens, et partaient vers ces centres de nutrition qui nourrissaient 2 millions de personnes à l'époque. Un seul journaliste s'est intéressé à ce convoi. C'est vrai qu'il était ordinaire. Il se passait soit tous les jours à certains moments, soit une fois par semaine selon les besoins. Donc il était dans l'ordinaire des jours. Mais on avait dit qu'aucun convoi humanitaire n'arrivait sur place. On avait dit qu'il était impossible de se déplacer sans d'énormes escortes militaires. Donc, évidemment, tout se concentrait, quand je dis on, c'est-à-dire les Nations Unies, une partie des journalistes, Kouchner, les politiques, qui voulaient tout ramener précisément autour de l'armée. Et à un mot d'ordre, rien n'arrive, il faut absolument protéger. Mais beaucoup de choses arrivaient, et par ailleurs, la famine, comme je le dis à un moment, était pratiquement réservé. Les taux de mortalité avaient déjà été divisés par 5, parce que la famine s'agit un peu, pardonnez-moi, comme un feu de forêt. Ça dévore une partie de la population, en l'occurrence les populations déplacées, et non pas la population dans son ensemble. Et une fois que celle-ci avait péri, eh bien, il n'y avait plus grand-chose. Donc la famine freinait.
Alors, si je comprends bien votre discours, il y aurait comme une sorte de calamité médiatique qui finalement insulterait presque ce qui est réellement fait tous les jours. C'est ça qui détourne.
Je ne veux pas généraliser. Je maintiens un événement surmédiatisé où il y a une espèce de ruée de journalistes par rapport à un événement qui est quand même sans précédent. En effet, le débarquement d'une mission humanitaire sous couvert, de façon sur un mode militaire, et par la première armée du monde, qu'est les États-Unis, à la suite de la guerre du Golfe. Et d'ailleurs, il y a évidemment un rapport entre les deux. Il s'agit de rehausser, comme vous l'avez dit à un moment, l'image des États-Unis. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose de l'ordre d'un événement majeur qui est en train de se dérouler dans cette petite ville que personne ne connaît, enfin, que pas grand monde ne connaît, à Mogadiscio. Et ça induit une sorte d'ébriété médiatique. Les gens perdent le contrôle de ce qu'ils font. On a l'impression qu'ils agissent de façon mécanique, comme emportés, ou si vous voulez, un peu comme des mouches attirées par le miel, quoi. On est là, on ne sait plus vraiment ce qu'on fait, et quelques-uns qui gardent une certaine liberté d'esprit, comme Stephen Smith, il faut le dire, connaissait très bien cette région, il ne la découvrait pas avec le débarquement américain, eh bien, il a fait ce reportage magnifique. Personnellement, à mes étudiants, comme à mes copains de Médecins Sans Frontières, je donne souvent cet article à lire et cette comparaison, c'est pour ça que je la cite ici, parce qu'elle m'est très chère, cette comparaison entre le journaliste qui suit l'énorme convoi mis avec la Croix-Rouge et la troupe de journalistes qui suit les quelques graineries surprotégées par les militaires américains. Il y a là un contraste qui est très éclairant sur ce genre de phénomène.
Il y a de la distorsion. Oui. Ce sera le mot de la fin, Ronnie Bourman, parce qu'on aurait encore eu des choses à dire.
Dommage.
Si j'avais eu le temps de vous poser la question, vous êtes critique, mais c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? On n'a pas
mais
le temps.
Mais
deux mots.
Bien sûr, il fallait saturer, au pire moment de la famine, il fallait saturer la Somalie avec du lait, du sucre, de l'huile et du riz.
Plutôt qu'avec des images.
Ça aurait effondré les prix, plutôt qu'avec des images, ou même avec des images.
Pardon de vous couper si brutalement, mais c'est la fin de l'émission. Merci infiniment, Ronnie Bourman. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la Somalie, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons les blousons noirs en France.